Chapitre 2. Quand il regarde sa femme, Becker a parfois l'impression que son cœur est trop gros pour sa poitrine et qu'il risque d'exploser. La vie lui a offert tout ce dont il pouvait rêver, et il est terrifié parce que cela signifie qu'il a tout à perdre. C'est la raison pour laquelle il est si stressé ces derniers temps, si nerveux. Il a eu beaucoup trop de chance et il estime ne pas l'avoir mérité. Au moment où elle s'apprête à dépasser la statue en bronze, Elena s'arrête soudain, regarde vers la gauche et lève une main en visière. Quelque chose a attiré son attention. Pénètre alors dans le champ de vision de Becker, deux pointeurs anglais à la robe marron et blanc, suivis de près par leur maîtresse. Lady Emmeline Lennox s'avance d'un pas brusque et déterminé, sa chevelure grise parsemée de reflets d'argent. Elena pivote pour faire face à l'arrivante, et Becker est saisi par la symétrie entre le ventre arrondi de sa femme et le dos voûté de la veuve. De là où il se trouve, il ne peut ni entendre ce qu'elles se disent, ni lire les expressions sur leur visage. Mais il n'a aucun mal à percevoir la férocité avec laquelle Emmeline attrape Elena par le poignet pour la tirer vers elle. Becker toque sèchement sur la vitre. Les deux femmes se tournent vers lui. Emmeline lâche aussitôt sa prise et s'éloigne sans un mot, pendant qu'Elena adresse à son mari un salut timide de sa main désormais libre. « Vieille carne !» marmonne Becker qui vérifie soudain qu'il est bien seul. Ce n'est un secret pour personne qu'il ne porte pas la mère de Sébastien dans son cœur, mais il ne peut pas pour autant se permettre de dire du mal d'elle en public. Il envisage un instant de courir après Elena pour lui demander ce qui s'est passé et s'assurer qu'elle va bien, avant de se raviser. Sa femme ne supporte pas d'être traitée comme une petite chose fragile. De toute façon, Becker n'a pas le loisir de pousser la réflexion plus loin. La sonnerie de son téléphone retentit à nouveau. Pendant que son interlocuteur lui donne les détails d'une livraison de deux œuvres que Sébastien a achetées pour la Fondation sans prendre la peine de lui demander son avis, Becker navigue sur Internet à la recherche d'informations sur Julian Chapman, le mari de Vanessa. Il n'y a pas grand-chose de plus que la dernière fois qu'il a regardé. L'article sérieux le plus récent remonte à 2009. Il s'agit d'un portrait d'Isobel, la petite sœur de Julian, publié par le magazine Tetler. Si le but avoué d'Isobel est de rappeler à tous que Julian n'a toujours pas été retrouvé, Becker note qu'il est surtout question de l'entreprise de design d'intérieur qu'elle a créée. Néanmoins, les premiers paragraphes sont consacrés aux disparus. Évoquez le nom de Julian Chapman et vous verrez que le mot « diable » revient beaucoup. Il avait le diable au corps. Il était d'une beauté diabolique. Il avait une énergie de tous les diables. Quand j'en fais la remarque à Isobel Birch, elle ne peut s'empêcher de s'esclaffer. C'est vrai que Julian pouvait avoir un petit côté démon, reconnaît-elle. Mais c'était un démon aimé de tous, adoré même. Dans le salon de la somptueuse demeure d'Isobel Birch, dans les Cotswolds, trône un piano à queue couvert de cadres photos où le grand frère adulé figure en bonne place. Ici, on le voit pagayant dans son kayak en Cornouailles. Là, tiré à quatre épingles dans sa loge de l'hippodrome d'Ascot. Là encore, le teint hâlé, tout sourire sur son cheval, tandis que le soleil se couche sur la savane. Celle-ci a été prise au Kenya, précise Isobel. Julian adorait l'Afrique, un espace sauvage qui lui correspondait bien, à mon avis. Avec Celia, Gray, son amante, ils avaient pour projet de s'y installer. Ils avaient même trouvé un terrain où faire construire une maison. Ils étaient tellement enthousiastes. Isobel essuie une larme avant de reprendre. Hélas, moins d'un an après, ils avaient tous les deux disparu. Celia Gray est décédée dans un accident de la route en France dans la nuit du 31 décembre 2001 au 1er janvier 2002. 6 mois plus tard, Julian s'est rendu sur l'île écossaise d'Eris au volant de son Alfa Romeo Spider 1600 rouge pour rendre visite à sa femme dont il s'était séparé, l'artiste Vanessa Chapman. Puis, il s'est volatilisé. Ni lui ni sa petite décapotable n'ont jamais été retrouvés. 7 ans se sont écoulés depuis ce funeste séjour, assez longtemps pour que Julian soit présumé mort. Isobel, elle, n'a pas renoncé. Je continue à recevoir des messages de gens qui prétendent l'avoir vu. Pour suivre ces pistes, j'ai voyagé dans le monde entier, en France, en Bulgarie, en Afrique du Sud, en Argentine. Elle soupire et ajoute « Je sais bien qu'il y a très peu de chances qu'il soit encore en vie. » Julian nous aimait, et s'il pouvait se montrer égoïste, ce n'était pas quelqu'un de cruel. Cependant, tant que son corps n'a pas été retrouvé, je refuse d'abandonner. Je refuse de perdre espoir. » Quand je demande à Isobel Birch si elle a une idée de ce qui a pu se passer, son visage s'assombrit. « Nous n'avons aucune indication précise quant à ses derniers déplacements. Vanessa prétend ne rien savoir. Elle maintient qu'elle n'était pas sur l'île à ce moment-là. » J'encourage Isobel à développer, mais elle secoue la tête. « Je ne peux rien dire de plus à ce sujet. En revanche, une chose est sûre. Les semaines qui ont suivi la disparition de Julian, Vanessa n'a même pas daigné nous appeler, moi ou les autres membres de la famille, pour prendre de nos nouvelles. La disparition de Julian ne semblait pas l'affecter outre mesure. » Quand je suggère que Vanessa était peut-être elle-même bouleversée, accaparée par son propre chagrin, Isobel me dévisage d'un air entendu. « Vanessa n'a jamais été très émotive. Je ne sais pas ce qu'elle ressentait, mais je doute que c'ait été du chagrin. Si vous voulez mon avis, je crois surtout qu'elle était soulagée d'être débarrassée de lui. » Dans les paragraphes suivants, le journaliste interroge sans les nommer divers amis de Julian, qui racontent son sens de l'humour dévastateur, son charisme, sa joie de vivre. Ils évoquent aussi des anecdotes. Julian qui participe à un lâcher de taureau en Espagne, qui escalade le Ben Nevis, qui saute du Magdalen Bridge à Oxford pour les célébrations du 1er mai. Vanessa, elle, reste au second plan. L'épouse magnifique et pétrie de talent, la femme sérieuse et ambitieuse. Lorsque le journaliste aborde les difficultés financières de Julian et ses fréquentes infidélités, sa sœur se montre dédaigneuse. J'ai dit qu'il pouvait avoir un petit côté démon, non? Julian n'était pas parfait, mais il était l'incarnation de l'esprit libre, drôle, extravagant, jamais ennuyeux. Tout le monde l'adorait, tout le monde recherchait sa compagnie. Elle marque une courte pause et esquisse un semblant de sourire, tandis que ses grands yeux marrons s'embuent de larmes. Enfin, tout le monde sauf elle.
Journal de Vanessa Chapman. Non daté. Ma peinture noire me perturbe. Hier, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à travailler si elle était là, devant moi, appuyée contre le mur de l'atelier. Je suis allée la ranger dans le trou du prêtre, mais même là, je pouvais sentir sa présence. Alors j'ai quitté la maison. Ça n'a pas suffi non plus. Alors j'ai aussi quitté l'île. J'ai pris la voiture jusqu'au continent et j'ai appelé Julian de la cabine du parking. Ligne de la maison encore coupée et j'oublie sans cesse de contacter le réparateur. Je lui ai dit de ne pas venir, que je ne voulais pas de lui ici. Après, je suis allée au pub à l'autre bout du village. Je me suis assise seule dans un coin. Au bout de 10 minutes, un homme est venu me parler. Un Américain à la recherche de vieilles sépultures, une histoire d'ancêtre. Il m'a offert un verre. Je savais que si j'acceptais, j'allais rater la marée. Je lui ai raconté que j'étais institutrice à Édimbourg et que je venais de me disputer avec mon mari. Le sexe n'était pas très intéressant, mais tout de même appréciable. Cette liberté est enivrante. Je mange quand j'en ai envie, je travaille quand j'en ai envie, je vais et je viens comme j'en ai envie. Je ne me soumets à personne, à part à la marée.